Alors, petite annonce avant qu'on commence. À la fin, on a une petite surprise pour les mamans. Donc, ceux qui ont des enfants à la pouponnière, autour de moins quart, je vais viser finir autour de moins quart. Puis, vous pourrez retourner chercher vos enfants. Revenir, on pourra probablement chanter le chant pendant ce temps-là, le temps de retourner chercher les enfants pendant le chant, parce qu'on ne veut pas avoir un petit temps spécial pour honorer les dames et les mamans de notre Église. Voilà. Alors, si vous avez déjà pris soin d'enfants, que ce soit les vôtres ou que ce soit ceux de quelqu'un d'autre, ce n'est pas une grande surprise. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son passe? Oui? Un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux. On monte un peu. OK, parfait. Moi, j'avais un petit problème ici. OK, je recommence. Alors, si vous avez déjà pris soin d'enfants, que ce soit les vôtres ou que ce soit ceux de quelqu'un d'autre, c'est pas une grande surprise si les enfants refusent de suivre les instructions. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà travaillé dans des camps de jour ou comme professeur ou en service de garde, alors ou dans des garderies, ou qui ceux qui ont déjà eu qui ont pris soin des enfants pour gardienner ou vos propres enfants? Alors, les enfants refusent souvent de suivre les instructions. Par exemple, on touche pas au couteau et là, l'enfant a trop le goût de prendre le couteau. Ou, OK, les enfants, c'est le temps de se mettre en ligne, puis ça continue à courir. Ou, c'est le temps d'aller se coucher, puis là, je suis même pas fatigué! Mes parents, ma mère raconte parfois l'histoire où elle a eu un petit peu de la difficulté avec mon grand frère. Bien sûr, avec moi, elle a jamais eu de problème. Mais avec mon grand frère, elle se souvient très bien d'un épisode où elle lui a dit... il s'appelle François. Elle dit, François, maman a dit non. Et il a répondu, maman a dit oui. Aïe, aïe, aïe. Je pense que ça n'a pas bien été pour mon frère. Mais ma mère s'est sentie un petit peu... qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, on peut parfois se sentir complètement démuni sans savoir quoi faire. Alors, quiconque est maman ou quiconque prend soin des enfants, les vôtres ou ceux des autres, fera face à une certaine opposition de la part des enfants. Je fais le pont un peu avec notre thème aujourd'hui. Eh bien, c'est la même chose lorsqu'il en vient à partager notre foi en Dieu, le fait qu'on croit que Dieu existe ou le fait qu'on partage que le seul moyen d'être pardonné de nos péchés, selon la Bible, c'est par la mort, la résurrection de Jésus, par la foi en lui, qu'on doit se détourner de notre ancienne vie, de nos péchés, puis suivre Jésus. Et on va faire face à toutes sortes d'oppositions, toutes sortes d'idées contraires. Évidemment, les gens ne seront pas tous d'accord avec nous, sinon tout le monde serait chrétien. Alors, c'est normal qu'il va y avoir une forme d'opposition, une forme de désaccord, et parfois même jusqu'à du mépris. Mais dans notre monde, on vit... À peu près pas, dans notre monde, je veux dire, pas sur la planète Terre en 2018, mais au Canada en 2018, on vit très peu ce qu'on voit dans le livre des Actes des Apôtres, ce à quoi les apôtres faisaient face en étant des témoins oculaires de la résurrection de Jésus et qu'ils prêchaient, qu'ils annonçaient, qu'ils témoignaient que Jésus était le Messie promis et qu'il était le seul chemin vers Dieu. Alors, on va regarder aujourd'hui à trois reprises comment l'apôtre Paul et son compagnon d'œuvre Barnabas ont fait face à une vive opposition et de la part des gens qu'on aurait pensé qu'ils auraient dû être de leur bord. Alors, on va regarder ça ensemble. Je vous invite à ouvrir votre Bible, si vous l'avez, dans le livre des Actes des Apôtres, qui est le cinquième livre du Nouveau Testament. La Bible se divise en deux grandes sections. L'Ancien Testament, qui est annonce la venue de Jésus et le Nouveau Testament qui parle de la vie de Jésus et du début de l'Église. Le livre des Actes des Apôtres, qu'on est en train d'étudier en ce moment en Église, nous raconte le début de la vie de l'Église. Et là, on est en train de suivre deux missionnaires, Paul et Barnabas, qui sont dans leur premier voyage missionnaire. La semaine passée, on a vu comment ils étaient en train de prier à l'église d'Antioche. Est-ce qu'on peut montrer la carte? Je pense, super. Donc, Paul et Barnabas étaient réunis à l'église d'Antioche. Ici, ça, c'est une carte du monde romain à l'époque. Le monde n'a pas beaucoup changé depuis, mais ça, c'est les villes à l'époque. Et là, le Saint-Esprit, alors qu'ils jeûnaient, qu'ils priaient, leur a parlé, on ne sait pas exactement de quelle façon, qu'il leur a dit « Mettez-moi, Saul et Barnabas, à part pour l'œuvre que j'ai prévue pour eux. » Puis ils allaient être envoyés comme missionnaires. La semaine passée, on les a vus bon, se rendre jusqu'au port de Séleucie, ensuite se rendre à Chypre, d'où Barnabas était originaire. Donc lui, il s'est rendu d'abord vers son peuple, vers peut-être sa famille, ses amis d'enfance, les gens qu'il avait connus, pour leur parler de Jésus. Et ils se sont rendus à Paphos, là où ils ont rencontré le proconsul, je pense, Sergius Paulus, et il y avait Élymas, le magicien, qui s'opposait à eux. Suite à ça, ils se sont rendus en Asie mineure, qui est la Turquie moderne. Probablement qu'ils ont, ont améri à Attalie. Ils se sont rendus en haut, regardez mon ombre, pas mon droit. Donc, à Antioche de Pisidie, en haut là, c'est la première ville où on a un discours de Paul que Ovidiu nous a exposé la semaine passée, où il parlait de l'histoire du peuple d'Israël. Il s'adressait à des Juifs dans la synagogue et des gens qui avaient un intérêt ou qui s'étaient convertis au judaïsme, même s'ils n'étaient pas eux-mêmes des descendants d'Israël. Et on n'a pas eu l'occasion trop de regarder c'était quoi la réaction que Paul et Barnabas ont eue suite à leur message. Et j'aimerais qu'on le regarde aujourd'hui parce que c'est en plein dans Acte 14, on parle de s'attendre à de la persécution, s'attendre à de l'opposition. Et bien, la fin du chapitre 13, c'est en plein ça aussi. Donc, on va regarder quatre villes aujourd'hui. La première, suivez mon ombre. Donc, Antioche de Pisidie, ensuite Iconium, Lystre et Derbe. C'est pas mal high-tech, hein? Affaire avec l'ombre, hein? OK, alors on finit l'histoire à Antioche de Pisidie. Je vais commencer dans Acte 13, au verset 42. Lorsqu'ils sortirent de la synagogue des Juifs, les non-Juifs les invitèrent à parler du même sujet le sabbat suivant. Quand l'assemblée se dispersa, beaucoup de Juifs et de non-Juifs pieux convertis au judaïsme suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les convainquirent de rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour écouter la parole de Dieu. Quand ils virent cette foule, les Juifs furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'insultant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance « C'était à vous d'abord !» que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, nous nous tournons vers les non-juifs. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les non-juifs se réjouissaient en entendant cela. Ils célébraient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se propageait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes pieuses de la haute société et les personnalités de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et retournèrent chez eux abattus. Et ils allèrent à Iconium. Quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Alors, on arrête là pour le moment. À Antioche de Pisidie, quelle est la réaction des gens? On voit vraiment deux pôles, hein? Des gens, des Juifs et des non-Juifs, qui croient ce qu'ils ont entendu, ce que Paul leur avait dit. À la fin de leur discours, il leur disait, « C'est par Jésus que le pardon des péchés vous est annoncé, et c'est par lui que toute personne, indépendamment qu'il soit juif ou non-juif, toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libéré par la loi de Moïse. Et je pourrais ajouter, et dont vous ne pouviez pas être libéré par votre propre loi. » Alors, il y a des gens qui, heureux, se joignent à Paul et Barnabas le premier sabbat même où ils ont prêché. Il y a des gens qui viennent, qui veulent en entendre plus. Et Paul et Barnabas, au verset 43, ça dit, « Ils s'entretèrent avec eux, les convainquirent de rester attachés à la grâce de Dieu. » Ah, OK, fait qu'il y a déjà des gens qui ont cru le jour même où ils ont entendu l'Évangile pour la première fois. Ils placent leur confiance en Jésus, le Messie, le seul Sauveur, leur Seigneur. Ils sont sauvés et deviennent eux aussi chrétiens, disciples de Christ. Et le dimanche, non pas le dimanche, le samedi, le sabbat suivant, là, toute la ville ou presque toute la ville se rassemble. On a des visiteurs de l'extérieur, ça brasse la cage, il y a un nouveau message qui est apporté, c'est intéressant. Puis là, ça crée une vive opposition. Et donc, il y a des Juifs qui se sont convertis, mais il y en a d'autres, les chefs, les responsables juifs, qui voient un problème, un gros problème avec ce que Paul est en train d'enseigner. Mais il y a quelques difficultés aussi en tant que juif pour croire à ce que Paul est en train d'annoncer. Le fait que les chefs juifs à Jérusalem sont les méchants dans cette histoire-là. Ce sont eux qui ont crucifié le Messie qu'ils attendaient. Aïe aïe, la gaffe. Si c'est vrai que nos chefs religieux ont crucifié le Messie qu'on attend, ouf, c'est pas bon pour notre curriculum vitae, ça, en tant que juif. Avoir crucifié le Messie que tu attendais, ouch, c'est un peu dur à avaler. Deuxièmement, le fait que Paul mentionnait que c'est par Jésus qu'on peut être libéré de toutes les fautes dont on ne pouvait pas être libéré ou justifié par la loi de Moïse. Alors, il y a comme une nouvelle étape. On n'est plus sous la loi, mais sous la grâce, comme Paul le dit dans ses lettres. On ne peut pas gagner, mériter la faveur de Dieu. On peut simplement la recevoir. Elle est gratuite pour ceux qui reconnaissent leur indignité et qui sont prêts à la recevoir, tels que nous sommes. À recevoir le pardon de Dieu, à recevoir sa justice. Pas parce que nous, on a revécu comme vie pieuse ou comme vie obéissante ou comme vie morale ou par le bien qu'on fait ou par le mal qu'on omet de faire. Mais que c'est seulement la justice de Jésus qui peut nous rendre justes devant Dieu, comme un cadeau qu'on reçoit en plaçant notre foi en lui. Alors, peut-être que les Juifs voyaient que Paul, il venait pour détruire les traditions. En fait, Paul, probablement qu'il a montré aux Juifs comme... mais il vient de leur montrer que, en fait, Jésus, c'est le Messie promis. C'est celui, le descendant de David, celui qui est même ressuscité des morts. Mais ces questions-là un peu théologiques ne sont pas le problème fondamental que les Juifs ont avec l'enseignement de Paul. C'est quoi leur problème fondamental? Verset 45. Quand ils virent cette foule, les Juifs furent remplis de jalousie. Oh! Moi, je suis jamais jaloux. C'est pas moi, ça. Alors, Paul et Barnabas sont arrivés et en une semaine, ils ont ramassé la plus grande foule qui est jamais venue à la synagogue. Imaginez avoir fait des efforts pendant des années, peut-être même avoir dédié votre vie à votre religion, à votre église, à votre ministère, à votre job. Puis là, il y en a un autre qui arrive. Puis lui, en une semaine, il dépasse tout ce que toi, tu n'as jamais réussi à accomplir. Oh! Ah, ça peut être dur à avaler. Le nouveau collègue qui rentre et qui reçoit la promotion avant toi. On peut vivre ça aussi comme église. On fait des efforts comme église pour bien prendre soin des gens, pour annoncer la bonne nouvelle, puis notre église ne grandit pas ou peu, ou même on vit des difficultés, l'église rétrécit. Puis là, une nouvelle église qui commence avec un style différent, puis là, cette église-là grandit. Et elle grandit vite. Ah! Il doit avoir un problème. Nous, on a travaillé très fort. Mais eux, qu'en si peu de temps, leur église devient très grande, puis là, ils implantent d'autres églises, etc. Ouh, ça peut être facile pour des pasteurs, des responsables d'église ou des gens impliqués dans une église de ne pas être jaloux du succès des autres et de chercher les bébites. Ah là, je suis sûr qu'il y a des problèmes. Ah, ça, j'aime pas ça, comment eux, ils font ça. Ils sont... c'est pas la bonne façon de faire. Alors, que Dieu nous garde de la jalousie mal placée. Mais les chefs juifs, donc, le texte nous dit que c'est premièrement par jalousie qu'ils s'opposaient à ce que Paul disait en l'insultant. Et Paul leur dit, « L'Évangile vous est adressé à vous d'abord, mais comme vous ne vous êtes pas jugé, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, nous nous tournons vers les non-juifs. » Wow. Paul, c'était sa façon de faire à chaque nouvelle ville où il se rendait. Il cherchait une synagogue. Alors, une synagogue où il y avait des Juifs qui connaissaient l'Ancien Testament, qui adoraient le Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu, et qui attendaient le Messie, le descendant de David, qui reviendrait délivrer Israël de ses ennemis et ramener la gloire du royaume de David. Cependant, ce Messie-là allait être un autre type de Messie que ce à quoi les Juifs et les prosélytes s'attendaient. Un Messie qui allait devoir souffrir. Un Messie dont le règne n'était pas de ce monde, dont la gloire ne serait pas de ce monde, et dont les ennemis ne seraient pas l'Empire romain et les envahisseurs étrangers, mais un ennemi bien plus puissant, le diable et le péché qui vit en chacun de nous. Alors, Paul se rendait d'abord aux Juifs pour leur annoncer cette nouvelle-là. Les Juifs étaient ceux qui étaient les mieux placés pour recevoir, qui connaissaient l'Ancien Testament. Paul pouvait parler de l'Ancien Testament, comment il pointait vers Jésus-Christ, comment Jésus était l'accomplissement, en fait, de l'Ancien Testament. Et plusieurs des Juifs croyaient. Et tous les premiers chrétiens, d'ailleurs, étaient des Juifs qui avaient vu Jésus, qui l'avaient écouté, qui l'avaient vu faire des miracles, qui l'avaient vu ressusciter. Qu'il avait vu mourir pour eux. Et Paul aussi allait vers les Juifs parce que les Juifs, c'était son peuple. Dans l'Épître aux Romains, Paul partage comment il serait prêt à donner son propre salut pour que son peuple soit sauvé. Il dit, « Si moi, je pouvais aller en enfer pour que mon peuple puisse être sauvé. » Paul aimait le peuple juif. Ils étaient sa famille, ils étaient son peuple et voulaient qu'ils puissent entendre parler du seul Sauveur, du seul Seigneur qui pouvait les racheter. Ça, c'est une bonne leçon pour nous aussi, lorsqu'il en vient à partager l'Évangile. Souvent, on se dit que si le Seigneur nous appelait à être missionnaires à l'autre bout du monde, comme il a fait un peu pour Paul et Barnabas, si jamais le Seigneur décidait qu'il voulait que je sois missionnaire en Colombie, en Indonésie, en Algérie. Alors j'irai puis je pourrais être un témoin là. Puis on oublie que l'endroit où Dieu veut qu'on soit un témoin, c'est pas à l'autre bout du monde. C'est ici. C'est où nous sommes. C'est avec les gens qui nous sont proches, avec les gens qu'on connaît, avec les gens qui nous connaissent, qui sont capables de voir si notre vie chrétienne est vraie ou si elle n'est pas vraie. Et notre témoignage commence comme Dieu avait dit à ses disciples à Jérusalem, là où eux étaient, auprès des gens qui les connaissent. Notre témoignage, frères et sœurs, si on est prêt à témoigner à des inconnus, mais pas à des gens qui nous sont proches, on doit réévaluer nos priorités. Alors comme Église, qu'on veut faire des pas dans l'avant pour l'évangélisation, ça commence, chacun de nous, avec les gens autour de nous. Ça commence par prier pour ceux qui nous entourent. Prier pour des opportunités, de dire une parole, un geste, une discussion, et que le Seigneur fournisse des occasions. Et savez-vous qu'est-ce qui va se passer à travers ça? Au verset 48, la fin du verset, je vais lire le verset 48, il dit « Les non-juifs se réjouissaient en entendant cela, ils célébraient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. » Il y a des gens autour de nous, dans notre ville, dans notre entourage, que Dieu a destinés à la vie éternelle. Mais Dieu a destiné non pas simplement leur vie éternelle, mais le moyen par lequel ils parviendraient à la foi en Jésus. Et ce moyen-là, c'est vous. Ce moyen-là, c'est moi. C'est nous. Le Seigneur n'est pas seulement celui qui destine la fin, mais qui destine tous les moyens qui mènent vers la fin. Passons à notre deuxième ville. Alors, Paul et Barnabas, à Antioche de Pisidie, sont maintenant bottés dehors, pas très poliment, par les Juifs de la ville, et ils continuent. Ils font un voyage d'à peu près 150 km pour se rendre à la ville de Iconium. Continuons. Iconium, chapitre 14, les versets 1 à 7. C'est un passage qui est plutôt court. À Iconium de même, Paul et Barnabas entrèrent dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande foule de Juifs et de non-Juifs crurent. Mais les Juifs, restés incrédules, excitèrent l'esprit des non-Juifs et provoquèrent leur hostilité contre les frères. Paul et Barnabas restèrent donc assez longtemps à Iconium. Ils parlaient avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, en permettant qu'il se fasse par leur intermédiaire des signes miraculeux et des prodiges. La population de la ville se divisa. Les uns étaient du côté des Juifs, les autres du côté des apôtres. Alors que les non-Juifs et les Juifs avec leur chef se préparaient à les maltraiter et à les lapider, Paul et Barnabas, avertis de la situation, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre, à Derbe et dans les environs. Là aussi, ils annoncèrent la bonne nouvelle. Alors, je ne passerai pas beaucoup de temps sur cette ville-là. Il se passe essentiellement le même scénario qui vient juste de se passer à Antioche de Pisidie, n'est-ce pas? Paul et Barnabas se rendent à la synagogue, ils enseignent, ils prêchent la bonne nouvelle. Il y a des Juifs et des non-Juifs qui croient. Et les Juifs qui ne croient pas excitent la foule à faire du mal à Paul et Barnabas. C'est assez intéressant qu'au verset 2, ça dit, ils provoquèrent, en tout cas que les Juifs provoquent les non-Juifs à l'hostilité contre les frères. Et ensuite, ça dit, Paul et Barnabas restèrent donc assez longtemps à Iconium. What? En danger, ils décident de rester. Mais, lorsqu'ils entendent parler qu'on se prépare à les lapider, ils ne sont pas obligés de rester. Ils continuent ailleurs. J'ai eu cette discussion-là il y a quelques années avec quelqu'un, je ne me souviens pas qui, quelqu'un qui me disait qu'il avait quitté son pays, entre autres, à cause des dangers pour sa propre sécurité. Je pense que c'était quelqu'un qui venait du Moyen-Orient et qui était chrétien. Puis à cause de sa foi, il était en danger et il avait décidé de commencer les démarches pour immigrer au Canada et il était arrivé au Canada. Et il s'était un peu senti mal en se disant, est-ce que je suis en train de fuir? Est-ce que je ne devrais pas plutôt rester ici, quitte à mourir pour le Seigneur si c'est ce qu'il m'appelle à faire? Et je ne sais pas si lui s'était rendu compte ou on discutait du fait que Jésus dit ça à ses apôtres et on voit les apôtres ici dans les Actes le faire. Lorsqu'ils sont sur le bord de que leur vie est en danger, ils sont prêts à continuer ailleurs. Il n'y a pas une obligation à dire, si tu es en danger, tu dois rester là et mourir sur le champ. Non, tu peux aller ailleurs. Mais ils ne vont pas ailleurs pour se taire, ils vont ailleurs pour continuer à partager, quitte à se remettre en péril. Parce que lorsqu'ils entendent parler du fait que, justement, on veut les lapider, ça dit qu'ils se réfugient dans d'autres villes. Ils continuent à Lystre et à Derbe. OK, troisième ville. Aujourd'hui, la ville de Lystre. Ici, on a une histoire assez intéressante. À Lystre, un homme impotent des pieds se tenait assis. Il était infirme de naissance et n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Celui-ci fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et se mit à marcher. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule se mit à dire tout haut en lycaonien, « Les dieux sont descendus vers nous sous une forme humaine! » Ils appelaient Barnabas « Zeus » et Paul « Hermès » parce que c'était lui, Paul, qui prenait la parole. Le prêtre de Zeus, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des guirlandes vers la porte. Il voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Quand ils apprirent cela, les apôtres Barnabas et Paul déchirèrent leurs vêtements, se précipitèrent vers la foule en s'écriant « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des êtres humains de la même nature que vous. Et nous vous apportons une bonne nouvelle en vous appelant à renoncer à ces idoles sans consistance pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Pourtant, il n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est par le bien qu'il fait. Il vous envoie du ciel les pluies et les saisons fertiles. Il vous comble de nourriture et remplit votre cœur de joie. C'est à peine s'il put, par ses paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors, arrivèrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent la foule. Après avoir lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Cependant, quand les disciples l'entourèrent, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Wow! Toute une histoire! Alors, Paul et Barnabas arrivent à Lystre, prêchent, annoncent la bonne nouvelle, comme ils ont fait dans toutes les autres villes avant. Et là, Paul voit un homme qui, il est convaincu, il le sait par son regard. Est-ce que le Saint-Esprit lui indique d'une certaine façon, mais il voit que cet homme a la foi pour être guéri. Lui qui est né, incapable de marcher. Aujourd'hui, peut-être qu'on l'aurait opéré à la naissance, mais à l'époque, on n'avait pas ça. Alors, il n'avait pas marché de sa vie. Et Paul, par la puissance du Saint-Esprit, le regarde et lui dit « Lève-toi droit sur tes pieds, ce qu'il fait. » Wow! Et on voit qu'à la ville avant, à Iconium aussi, ça disait au verset 3 que les apôtres parlaient avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce en permettant qu'il se fasse par leur intermédiaire des signes miraculeux et des prodiges. Wow! De la même façon que Jésus avait témoigné de qui il était par des miracles. Alors, il avait donné ce même pouvoir à ses apôtres. Et non seulement ils apportaient la bonne nouvelle, mais Dieu confirmait ce qu'ils enseignaient par les miracles qui se produisaient par leurs mains. Alors, ce monsieur-là qui était infirme à Lystre et qui tout d'un coup est capable de marcher, la foule se dit « Wouh! » Les dieux sont parmi nous. Il faut vite offrir un sacrifice. Mais ça dit au verset 11 qu'ils le disent en lycaonien, en langue lycaonienne. Donc, Paul et Barnabas n'ont pas compris c'est quoi qui se passait. Ils étaient en train de parler dans leur langue, donc ils ne comprenaient pas pourquoi la foule était agitée. Bon, cet homme-là venait d'être guéri, donc les gens devaient être émerveillés de ce qui venait se passer. Puis là, ils voient le prêtre avec la procession arriver, avec le taureau. Ils se rendent compte qu'ils veulent leur offrir un sacrifice à eux, comme étant des dieux. Et là, ils se jettent à terre et ils disent « Faites pas ça! On est des hommes comme vous! » Et ils en profitent pour leur parler qu'il y existe un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, celui qui nous donne tout le bien qu'on a. C'est pas les dieux qui compétitionnent pour la chaleur et le froid et la pluie et les ouragans, les dieux qui sont en compétition pour le temps, mais il y a un seul Dieu qui est créateur de toutes choses. Et c'est lui qui nous donne tout ce qu'il y a de bien, tout ce qui nous réjouit, la nourriture, la pluie en son temps. Et là, à peine, ils réussissent à ce que les gens ne sacrifient pas un taureau pour eux. Il y avait une légende à l'époque qui a été trouvée dans le livre écrit par un poète latin qui s'appelait Ovid. Donc, il y avait un certain poète latin, Ovid, qui a écrit un livre en grec, je pense, Métamorphose. Et dans ça, il raconte, entre autres, une légende où Zeus et Hermès étaient venus sous forme humaine, camouflés comme des humains, pour voir si les humains seraient hospitaliers. Et ils étaient venus dans la région de Lystre, je pense en Phrygie, dans cette section-là. Et là, ils ont cogné à la porte pour être accueillis et tout le monde les ont rejetés. Ils ont finalement été accueillis par un vieux couple très pauvre qui leur ont fait « profiter de leur pauvreté avec eux. Alors les dieux, fâchés du manque d'hospitalité des gens, sont montés sur la montagne et ont emmené le vieux couple avec eux, ont inondé toute la vallée pour noyer tous les gens qui n'avaient pas été hospitaliers envers eux et a transformé la petite cabane des pauvres en un grand au toit doré. Alors ça, c'était une légende, un mythe que les gens croyaient. Et là, ils se disaient, si jamais Zeus et Hermès repassent, faut pas rater notre shot. On ne veut pas se faire noyer comme les autres. Donc, ça serait intéressant parce que justement, Paul et Barnabas arrivent. Il y a ce miracle-là et ils disent, c'est Zeus et Hermès! Vite! Sacrifice! On veut reconnaître que c'est les dieux. Et là, Paul leur dit non, c'est de la foutaise. Il n'y en a rien qu'un dieu. Et on n'a pas dans son discours ici le fait qu'il ait partagé l'évangile. Il ne parle pas de Jésus dans ce discours-là. Peut-être qu'il n'a pas réussi, que c'était trop chambranlant ce qui se passait. Peut-être qu'il l'a fait plus tard. Mais il les appelle à renoncer à leurs idoles pour se tourner vers le Dieu vivant. Et ensuite, on a, au verset 19 et 20, les Juifs de Antioche et Pisidie qui les avaient mis dehors, les Juifs de Iconium qui voulaient le lapider, puis que Paul s'est enfui d'avance, non content de simplement mettre Paul et Barnabas dehors de chez eux, ils voyagent jusqu'à Lystre dans le but de lapider Paul. Et ils réussissent leur coup. La foule qui, quelques heures, quelques jours plus tôt, s'apprêtait à offrir un sacrifice à Paul et Barnabas, se joint maintenant aux Juifs pour lapider Paul. On pense que c'est la seule fois que Paul a été lapidé, mais ça passe tellement vite ici, là. Verset 19, « Alors arrivèrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent la foule. Après avoir lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. » Il n'a pas juste mangé 2-3 pierres, là. Je ne sais pas de quoi Paul devait avoir l'air après, mais il pensait qu'il l'avait tué. C'était pas une exécution faite par un juge et de façon arbitraire, là. C'était un lynchage de groupe. Et Paul, lapidé, ses amis reviennent le chercher, le ressortent, le rentrent dans la ville en voyant qu'il n'est pas mort, et le lendemain, il continue son chemin. On va voir qu'il va repasser, par contre, tantôt. Alors, Paul, il s'attendait à de l'opposition. Il était prêt, comme on va le voir plus tard, en continuant le livre des Actes. Il était prêt à mourir pour Jésus. Il savait que Jésus était mort pour lui et ressuscité. Et il était prêt à mourir lui aussi pour Jésus, sachant que Jésus allait le ressusciter lui aussi au jour de la résurrection. Jésus lui-même a souffert. Il nous a dit qu'on doit nous y attendre et le voir comme une joie de participer aux souffrances de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre, qui lui-même avait été mis en prison, qui lui-même a passé à deux doigts de se faire tuer, lui qui a été battu pour Jésus, dans sa première épître, 1 Pierre 4, verset 12, dit « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, vous êtes bénis, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. » Wow! Et Pierre l'a vécu. Paul l'a vécu. Pas des paroles vides qui disent « Ah, vous souffrez, moi je vais rester tranquille. » Donc, c'est des hommes qui ont été prêts à mourir et qui sont, selon la tradition, effectivement morts. Pas dans leur vieillesse, mais exécutés pour le message qu'ils prêchaient. Fait que quand on regarde l'exemple de ces hommes-là, on pourrait se dire « Bon, de quoi nous on a peur? » On a peur pour notre réputation. On a peur pour... On veut l'approbation des gens autour de nous. On veut préserver l'opinion des gens, que les gens pensent beaucoup de bien de nous. La Bible appelle cela la crainte des hommes. Et fondamentalement, je crois que c'est possible de retracer toutes nos craintes par rapport au fait de partager notre foi à ça. Si on distille, c'est probablement ça l'essence principale qui ressort, la crainte des hommes au lieu de la crainte de Dieu. On décide de ne pas faire ce qu'on sait qu'on devrait faire dans le but de plaire ou de ne pas déplaire. Pourtant, si l'éternité est bel et bien en jeu, pour nous et pour ceux qui nous entourent, nous ne pouvons nous taire, malgré les malaises que nous pourrions causer. J'aimerais aussi attirer votre attention à ce que quelque chose que Paul a dit aux gens de Lystre, alors qu'ils s'apprêtaient à faire le sacrifice. Au verset 15, Paul il dit « Nous vous apportons une bonne nouvelle en vous appelant à renoncer à ces idoles sans consistance pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Un appel à la foi, c'est un appel à renoncer à nos idoles qui ne satisfont pas, à nos idoles sans consistance. Je suis en train de lire une biographie très intéressante d'un ingénieur informatique qui travaille à Wall Street, à New York. Il s'appelle Guillaume Bignon, un Français qui était athée dans sa jeunesse. Il raconte dans le chapitre 3 de son livre « La foi a ses raisons », un livre qui vient tout juste de sortir. Il raconte comment il était arrivé à tous ses objectifs de vie au début de la vingtaine. Il finissait ses hautes études prestigieuses en ingénierie. Il faisait des accomplissements sportifs de haut niveau. Il jouait en volleyball en championnat de France. Il était dans un groupe de music rock qui était en train de devenir vraiment populaire. Il jouait du piano. Il venait de performer devant une foule de 1000 personnes, la plus grande foule. Et les émotions qu'il a ressenties pendant cette soirée étaient incroyables. Et il avait une relation amoureuse qui le comblait. Mais il y avait toujours un trou. Toute sa vie, il avait bûché pour devenir super bon en volleyball, pour devenir super bon en ingénierie, pour devenir super bon en piano et en rock. Il était devenu populaire. Il avait une promesse de sécurité financière. Il pognait vraiment auprès des filles à cause de son physique, puis le fait qu'il était charmant. Mais après tout ça, il se demandait, dans le fond, c'est quoi le bonheur? J'ai atteint tout ça, c'était tous mes objectifs, puis je reste un peu sur ma faim, un peu sur ma soif. Le philosophe athée Luke Ferry, qu'il cite dans son livre, dit ceci, « Rien n'est pire que l'échec, sinon la réussite, quand elle ne nous comble pas. » Et j'ajoute, parce qu'une fois rendu en haut de nos objectifs ou du monde dans lequel on navigue, on se rend compte que le trésor n'est pas en haut de la montagne. En gravissant la montagne, toutes les gens qui gravissent la montagne autour de nous, on est tous convaincus que le trésor se trouve en haut, que toutes les affiches nous disent que le trésor, la gloire, le bonheur se trouve en haut. Et une fois qu'on arrive en haut, on se rend compte qu'il n'est pas là. Plusieurs personnes qui ont atteint le sommet de leur art au niveau sportif, ont gagné des championnats qui ont été numéro un mondial, ou des gens qui ont été des extrêmes vedettes de chant, de célébrités, se rendent compte une fois en haut que ça ne satisfait pas. Que ces idoles qu'ils ont adorées, ce à quoi ils ont dédié leur vie, ça ne les satisfait pas. Et ce n'est pas pour rien que beaucoup de gens rendus là se tournent vers la drogue et développent beaucoup de dépendance. Avoir vécu sa vie, bon, c'est un monde de très grande pression aussi, mais on se rend compte, j'ai vécu toute ma vie pour ça. J'ai sacrifié tout, ma santé, mes relations, peut-être ma moralité, et je me rends compte que ça n'a pas satisfait. Augustin, célèbre théologien des premiers siècles, dans sa biographie, son autobiographie intitulée « Confessions », qu'on appelle les « Confessions de Saint-Augustin », mentionne au tout début de son livre, en priant à Dieu, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il se repose en toi. » Ce vers quoi on se tourne pour trouver notre identité, pour trouver notre sécurité, pour trouver notre plaisir, ne vont jamais nous satisfaire si elles ne sont pas fondées en Dieu. Qu'on cherche l'amour, peut-être le plaisir. Est-ce que c'est les possessions? Est-ce que c'est l'influence, la gloire, l'approbation des autres? Ces choses ne satisferont jamais notre âme. Pour goûter à la vraie satisfaction, il nous faut nous détourner de nos fausses raisons de vivre, de ce que la Bible appellerait nos idoles, des faux dieux qui ne peuvent pas nous satisfaire, qui sont en fait une rébellion contre Dieu, nos péchés. Nous détourner de nos idoles, c'est ce que la Bible appelle la repentance. Nous détourner de notre façon de vivre et nous tourner vers Jésus. Dans Isaïe 45, 22, Dieu parle au peuple d'Israël et peut-être qu'il s'adresse à toi en ce moment. Il dit « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. » Jésus a dit des paroles qui ressemblent à ce dont on parlait dans Jean 7, verset 37-38. Il dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Jésus, à la croix, a renoncé à tout son bien personnel, a pris sur lui la condamnation qui nous revient parce que nous avons rejeté Dieu pour nous tourner vers toutes sortes de faux dieux, vers toutes sortes d'idoles qui ne pourront jamais nous satisfaire. Et Jésus a subi la condamnation à notre place. Il nous appelle à nous détourner de nos idoles, à nous tourner vers lui, à lui apporter nos péchés, nos fardeaux, nos inquiétudes, à lui dire « Je rends les armes, sois le maître de ma vie. » Et Jésus promet à tous ceux qui viennent à lui le pardon complet de nos péchés, l'espérance de la vie éternelle, une raison de vivre qui dépasse les choses temporelles. Il nous promet aussi sa présence, sa joie, sa paix à travers les difficultés, à travers les défis de la vie qu'on va continuer à vivre. En conclusion, un parent fidèle va aimer assez ses enfants pour les contrarier. Un parent fidèle ne va pas laisser ses enfants manger tout ce qu'ils veulent. Un parent fidèle ne laissera pas ses enfants regarder la télévision ou jouer aux jeux vidéo autant qu'ils ne le veulent, parce qu'ils en veulent plus que c'est bon pour eux. Un parent fidèle ne laissera pas ses enfants aller jouer chez n'importe qui, ou se coucher à l'heure qu'il veut, ou décider qu'il n'a plus le goût de faire ses devoirs ou de plus aller à l'école. Un parent fidèle va être prêt à faire face à l'opposition de son enfant pour son bien. Il va être prêt à contrarier son enfant par amour. Bien sûr, on est loin d'être parfait. Souvent, on va être fatigué, épuisé, en avoir par-dessus notre tête. Mais on est d'accord que pour être un bon parent, ça exige d'aller, d'aimer notre enfant assez pour le contrarier. Eh bien, d'une même façon, comme Paul et Barnabas et les apôtres, un chrétien, une chrétienne qui aime le Seigneur et son prochain va être prêt à briser le statu quo qui nous entoure. Va oser parler de Dieu. Va oser contrarier, parler de l'éternité. Parler de nos besoins, de nos idoles vers lesquelles on se tourne puis qui ne nous satisfont jamais. Parler de la satisfaction qui existe en Jésus. Notre besoin de nous détourner de nos idoles pour se tourner vers Jésus. Et savez-vous, Si notre identité en tant qu'enfant de Dieu est en sécurité en Jésus, en son amour et son acceptation envers nous, nous pouvons faire face à l'opposition, nous pouvons faire face à la critique sans que cela détruise notre monde. Alors, si notre identité se trouve en Jésus, nous serons prêts à aimer assez ceux qui nous entourent, à aimer assez nos enfants pour les contrarier et leur apporter un message d'espoir, de vie éternelle. Que Dieu nous fortifie à aimer assez ceux qui nous entourent pour être prêts à recevoir de l'opposition et répondre avec amour et persévérance. Alors, j'inviterai maintenant Benjamin et Irène. On va chanter un chant, puis je vais inviter tous les parents qui ont des enfants à la pouponnière à aller les chercher, puis à les ramener ici pour un temps spécial pour les mamans et toutes les dames.
Alors, je vous invite à vous lever et puis on va chanter un chant en attendant le retour des enfants. Seigneur, tu es le Dieu de victoire. Tu as vaincu le péché, tu as vaincu la mort à la croix, afin qu'on puisse être libérés en toi et qu'on puisse vivre en toi. Et puis Seigneur, même si ça peut être difficile, on peut avoir la crainte des hommes, on peut être dans le doute, mais c'est toi qui nous donnes la victoire. Oui Seigneur, c'est écrit l'Évangile est la puissance de Dieu. Évangile, la puissance de Dieu à la croix. Oui, Seigneur, tu nous as donné ta puissance à travers l'Évangile, à travers le Saint-Esprit. Je te prie qu'on puisse être tes témoins.